L'un des derniers chants disait « Rien ne peut détruire notre avenir ». Quelle affirmation ! Bonjour à chacun, c'est un plaisir pour moi de démarrer l'année. Bonne année à chacun ! Quel privilège de commencer ce temps dans la présence de Dieu, autour de sa parole. Et ma prière est vraiment que le Seigneur bénisse ce temps, qu'il nous parle chacun personnellement, qu'il fortifie notre foi, et qu'il nous accorde aussi, pour cette année qui s'ouvre, un regard juste sur nos vies, un regard juste sur notre monde autour de nous. Et il faut bien le reconnaître, le contexte, on commence cette année dans un contexte très particulier. Hein. Ça continue de l'année dernière d'ailleurs. Hein. Les nouvelles autour de nous ne sont pas toujours réjouissantes. Les tensions internationales, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité, les incertitudes économiques, les incertitudes politiques, le climat, la crise sociale, la politique, parfois nos propres peurs. Tout cela pèse, d'une façon ou d'une autre, peut inquiéter, peut épuiser. Peut-être que quelques-uns ici regardent néanmoins l'année avec enthousiasme, j'en sais rien, comment vous voyez l'année qui est devant vous. Je suis quelqu'un de naturellement positif et je me dis, si les choses autour de nous s'écroulent, on a d'autant plus un beau message à partager. Mais peut-être vous êtes de ceux qui ont des appréhensions, et c'est normal. Et dans ce brouhaha d'inquiétude, d'information, on peut se poser une question un peu légitime. Sur quoi s'appuyons-nous ? À quoi bon espérer ? À qui faire confiance ? Et on l'a chanté, hein, nous chrétiens, enfants de Dieu, on a une autre perspective. Nous croyons, même alors que le contexte peut être incertain, que Dieu est à l'œuvre. Amen. Que Dieu est fidèle, qu'il appelle non pas à subir ce monde, mais à y marcher, comme des hommes et des femmes porteurs d'espérance, porteurs d'une bonne nouvelle. Et c'est là, justement, que j'aimerais reprendre un peu notre mot d'ordre de cette année, pour ouvrir cette année 2026, de marcher avec les autres. Vous vous rappelez, hein, simplement marcher avec les autres, on a déjà dit tout un tas de choses en septembre, notamment. On a dit que marcher avec les autres, c'est s'encourager réciproquement, c'est se faire du bien, c'est s'accompagner, c'est se soutenir, c'est transmettre la bénédiction qu'on reçoit de Dieu, c'est témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies. Que notre vie avec Dieu jaillisse sur les personnes qui nous entourent. Et on le partageait avec plusieurs hein, ces derniers temps, mais dans l'Église, je trouve qu'on vit ces choses-là de façon encourageante, de façon très concrète. Il y a des relations qui se tissent, il y a des amitiés, il y a des unités, il y a de l'engagement, il y a du service, il y a du soutien fraternel, même lorsque ça va pas bien. Et je crois que oui, Dieu agit parmi nous, très concrètement. Alors pour ce premier culte de l'année, j'aimerais qu'on poursuive un peu cette réflexion de marcher avec les autres. C'est vrai que j'ai oublié la diapo, mais j'aimerais nous encourager à déborder d'espérance. C'est le titre que j'ai donné pour ce matin. Et il me semble que ce dont notre monde manque le plus aujourd'hui, c'est pas d'idées. Le monde ne manque pas de moyens. Le monde manque d'espérance vivante. Et j'aimerais le regarder simplement avec une toute petite prière de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. On est dans Romains 15, je vous invite vraiment à prendre la Bible. Et puis si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles à l'arrière et c'est à la page 742 pour les Bibles à l'arrière. Donc Romains 15, verset 13. Je vais m'arrêter simplement à ce verset pour ce matin et c'est presque un mot d'ordre pour cette année, une exhortation. Je lis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset, comme une prière en fait de bénédiction, et bien plus que cela, on voit qu'il y a tout un programme là-dedans. Et c'est ce que j'aimerais nous laisser pour 2026. Regardons-le ensemble, en gardant d'ailleurs ce verset sous les yeux. Regardez comment Paul parle de Dieu. Il ne dit pas le Dieu tout-puissant. Il ne dit pas le Dieu créateur. Il ne dit pas le Dieu souverain. Il ne dit pas le Dieu qui écoute. Mais il dit le Dieu de l'espérance. Quelle belle manière de terminer quelque part, parce qu'on est presque à la fin de cette lettre de Romains, de Paul aux Romains, adressée à une église. Et si vous lisez la lettre de Romains, on voit que c'est une église qui est un peu divisée, qui a un peu des petites tensions. Et Paul veut rappeler aux chrétiens que cette unité, qu'on vient d'ailleurs de chanter aussi, que Dieu a voulu entre les juifs et les non-juifs, entre des personnes culturellement très différentes, il est conclu avec cette prière que Dieu les remplisse avec ce qui nous unit véritablement, c'est ce Dieu de l'espérance, la joie, la paix. Et je crois que c'est une prière véritablement pour nous que j'aimerais nous faire, pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous rentrez dans cette nouvelle année. On peut avoir de la gratitude. Avec nous, avec les enfants, là, en début d'année, le 31, là, on a sorti un pot, on avait mis plein de billets tout au long de l'année, sur tous les beaux moments où le Seigneur a été présent dans l'année. Oui, on est peut-être rempli de gratitude, de reconnaissance. Peut-être vous démarrez cette année avec des blessures, avec des questions, avec des interrogations, avec de la fatigue. Ça a été mon cas il y a quelques jours. Mais ce verset nous donne un chemin, une direction. Je l'ai résumé, résumé une phrase avec une autre phrase, mais je l'ai résumé un peu comme ça. Entrons dans cette nouvelle année comme un peuple de l'espérance, enraciné en Dieu, rempli de joie et de paix pour rayonner vers les autres. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ce verset de Romains s'articule, il y a du mouvement. Et je vous propose de voir ce mouvement en trois points. Premier mouvement, notre source, le Dieu de l'espérance. Regardez le début, que le Dieu de l'espérance. Je l'évoquais déjà. Hein. Et cette expression-là, quand on l'étudie, elle est unique. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous voyez l'espérance associée à Dieu, de cette façon-là. Je parlais Dieu souverain, Dieu créateur, Dieu de l'espérance. Paul aurait pu écrire le Dieu de la paix, comme d'autres textes, ou le Dieu de la consolation. Mais il choisit volontairement le Dieu de l'espérance. Et Paul va nous rappeler et veut nous rappeler que l'espérance, c'est pas juste un concept religieux. C'est pas une émotion qui est appelée à être fluctuante. Cette espérance, elle a un visage. C'est Dieu lui-même. Dieu, notre espérance. Qui est venu lui-même, et quelques versets avant, Paul parle de cela, de cet abossement de Jésus, qui est venu de ce monde, qui est devenu serviteur. Et qui nous a apporté l'espérance. L'espérance, c'est pas juste une émotion ou un concept, c'est une personne, c'est Dieu. C'est une personne. C'est pas juste un slogan. C'est pas un rêve. Mais c'est un Dieu vivant, fidèle, qui tient parole. Et en fait, cette prière conclut toute une partie du passage où Paul va dire, c'est un Dieu qui a agi, qui a appelé fidèlement Abraham, qui a conduit un peuple malgré les infidélités, qui a tenu ses promesses en envoyant Jésus-Christ, qui s'est tenu au plan, c'est pas un plan B comme on l'a vu durant cette période de décembre. Voilà notre ancre, voilà notre espérance, c'est un Dieu qui tient promesse. C'est un Dieu qui agit maintenant et qui agira encore. Quelques phrases avant, regardez ce que dit Paul. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis ou des juifs pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté comme le dit l'Écriture. Là, ding-dong, hein, ce qu'on a vu en décembre. Comme le dit Dieu, comme l'a promis Dieu. Dieu est fidèle, il est venu pour prouver que Dieu est vrai. Dieu est notre espérance parce qu'il tient promesse. Dieu a tenu promesse envers Israël, son peuple, et il veut ouvrir cette même espérance à toutes les nations. Et là, il est dans cette démonstration, Paul, dans ce passage de Romains. C'est pour ça que Paul prie le Dieu de l'espérance, qui a été fidèle à son passé, qui est présent et qui sera présent pour l'avenir. Et aujourd'hui encore, Dieu, notre espérance. Dans ce monde où tout semble instable, où la parole donnée ne veut plus dire grand-chose, où on ne sait plus à quelle parole est vraie ou pas, où on rend si facilement un engagement qui est pris. Aujourd'hui, tous les engagements sont... Combien de fois on entend des patrons qui disent « ben voilà, j'ai embauché un stagiaire ou un nouvel ouvrier, et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles, il n'est pas venu. » On n'a plus d'engagement. Combien de mariages aujourd'hui, facilement, on les rompt. Aucun engagement ne tient. Mais notre foi repose sur un Dieu qui tient promesse, qui ne change pas, qui ne se détourne pas de nous, qui ne rompt jamais son alliance. Ce qu'il promet, ce que sa parole promet, il l'accomplit, le Dieu, notre espérance. Je disais tout à l'heure, on vit dans un monde, dans une société, peut-être des gens autour de vous, qui cherchent désespérément sur des choses à s'appuyer. Certains misent sur la sécurité, on blinde nos maisons de caméras, sur la technologie. Certains se disent, je vais placer correctement mon argent, ou je vais le convertir en or. Dans la santé, dans les règles. Ah, pourvu que, voilà, on fait des règles, on fait des lois, et que chaque pays puisse essayer de s'y tenir. On place peut-être dans la politique. Mais toutes ces choses bougent, toutes ces choses vieillissent, toutes ces choses s'effondrent. Et l'espérance de du chrétien, elle ne se mesure pas à cette météo qu'on est appelé à se donner. Elle se mesure pas au moral de notre monde, mais elle se mesure à la fidélité et à la constance de notre Dieu. Alors si on démarre notre année avec de la fatigue, on démarre peut-être notre année avec du ras-le-bol, de suivre ce rythme donné de ce monde, on démarre peut-être avec des difficultés, peut-être des incertitudes professionnelles, des incertitudes familiales. Mais la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de sa parole, c'est qu'on a un Dieu d'espérance. Et que notre espérance ne dépend pas de la clarté du chemin qui est devant nous. Il y a des choses devant nous qui sont pas glorieuses. Mais la beauté de notre chemin dépend de la solidité, de la foi de notre Seigneur. C'est ce que disait Jérémie dans un très beau passage. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier, ça veut dire une espèce de broussaille dans la steppe, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance, notre espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Quel beau passage! Il n'est pas question de... Il y a du désert, il y a de la tempête là dont il est question. L'incertitude de la vie, elle est là. Mais on sait où, en tant que chrétien, on a notre source. Notre feuillage reste vert. Des racines plongé en Dieu, même si le sol devant nous peut se dérober ou se fissurer. Et c'est parce qu'on a ce Dieu d'espérance que nous sommes capables d'aimer, que nous sommes capables de servir, que nous sommes capables d'accompagner, de soutenir, de porter, sans dépendre des circonstances. Ça a l'air facile à dire cela. Mais marcher avec les autres commence à cette source, le Dieu de l'espérance. En puisant chaque matin à cette source, comme une source dans la montagne, là, source qui déborde. C'est pas une citerne qu'on doit remplir, mais une source avec un flux continu. Notre espérance n'est pas en ce que nous pouvons prévoir, mais en celui que nous pouvons connaître. Notre espérance n'est pas en ce que nous pouvons prévoir, mais en celui que nous pouvons connaître. Notre avenir n'est pas dans nos mains, mais nos mains sont entre celles de Dieu. Notre avenir est entre ses mains. Alors, si je dois laisser une application plus explicite pour toi, pour moi, pour nous en tant qu'Église, Faisons ce premier choix spirituel de l'aller. Allons à cette source. Allons à ce Dieu de l'espérance. Plaçons notre confiance, nos projets, nos incertitudes entre ses mains du Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. C'est le deuxième point. Que le Dieu de l'espérance, je relis, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est pas un souhait vague de Paul pour nous. C'est une prière précise. Paul demande à Dieu d'agir intérieurement pour que la vie des croyants, pour que notre vie soit marquée par la joie et la paix. Remarquez ce mouvement, hein, que Dieu vous remplisse. Ce n'est pas fabriquer votre joie. Ce n'est pas garder la paix par vous-même. Non, c'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui remplit nos vies de paix et de joie. C'est une œuvre de grâce. De dire j'ai de la paix ou de la joie, c'est pas un défi moral ou une pensée, vous savez, positive. La vie va aller bien. Qu'on doit se redire. Mais c'est Dieu qui remplit de paix et de joie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous demande pas de produire la paix. Dieu nous demande pas de produire la joie. Il nous appelle à la recevoir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Il parle pas de, Paul ne parle pas de sentiments qui sont fluctuants, passagers, mais un état de cœur qui est enraciné dans ce Dieu de l'espérance. C'est pourquoi il ajoute dans la foi. Autrement dit, Paul dit, en faisant confiance à Dieu, à son caractère, à ses attributs, à sa bonté, à sa souveraineté, vous serez rempli d'une foi que Dieu veut déverser dans votre vie. C'est votre foi qui va produire la joie, et la joie conduit à la paix. La joie, c'est cette assurance tranquille que Dieu est aux commandes. La paix, c'est cette sérénité que rien ne peut nous séparer de lui. C'est l'absence de stress, c'est l'absence d'anxiété. Si vous revenez au début de la lettre de Romains, je crois que j'ai le verset, Romains 5.1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On retrouve un peu ce même vocabulaire. Voici le centre de notre message en tant que chrétien, en tant que croyant, en ce début d'année, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de notre performance religieuse, mais de la main de Dieu, de l'œuvre de Christ, du sacrifice du Christ à la croix. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et je crois qu'on est là aussi encore pour nous le rappeler en début d'année. Jésus, est venu réconcilier ceux qui étaient loin de Dieu, afin qu'ils trouvent en lui une paix, une joie que le monde ne peut pas donner. Et quand cette paix habite ton cœur, elle devient le terreau d'une vie, d'une joie profonde, d'une joie libératrice. Cette joie chrétienne n'est pas une euphorie ou un rire facile, mais c'est une joie qui naît de la certitude que Dieu est là, que Dieu est aux commandes, que Dieu est présent, que Dieu nous aime, qu'il nous a choisis, qu'il nous connaît, qu'il nous voit, qu'il nous accompagne, qu'il conduit nos pas, qu'il voit nos détresses, etc. Qui même dans la douleur ou la perte, cette joie ne s'éteint pas. Elle subsiste parce qu'elle est connectée à ce Dieu qui remplit, ce Dieu de l'espérance. Si on doit raccourcir, c'est pas les circonstances qui devraient déterminer notre joie et notre paix. Facile à dire. Je pense à un collègue, un frère qui a suivi un traitement de chiméo. Vous savez, avec les cancers, avec les effets qu'on connaît, hein, quand on suit un traitement de cette sorte qui est doux, lourd. Il a écrit tout récemment pour Noël. Ces derniers mois ont été remplis de turbulences. Mais celui qui est venu dans notre monde m'a accordé paix et réconfort durant ces quelques mois. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Notre Père Céleste m'a accordé une paix indescriptible tout au long de ce chemin. Et il dit, mais pourquoi? Et il dit, Dieu est fidèle et ne manque pas à sa promesse, à ses promesses. J'ai pu l'expérimenter d'une manière tout spéciale, concrète et régulière. En fait, sa joie et sa paix dépendaient non pas des circonstances qu'il était en train de traverser, mais du Dieu en qui il s'appuyait, de ce Dieu fidèle, de ce Dieu de l'espérance. Et voilà ce que Paul veut dire quand il parle de joie et de paix complète. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il parle de toute joie, de toute paix. Le mot « tout », il est fort là dans notre texte. Quand on dit « tout », c'est tout. Il ne reste aucune place pour autre chose. Dieu veut remplir profondément, durablement, parfaitement nos vies de joie et de paix. Et je crois que ce matin, Dieu veut aussi continuer à remplir nos cœurs ici, peut-être le tien, de paix et de joie. On est peut-être lassé de la vie. On est peut-être inquiet, on est peut-être blessé, mais Dieu veut le remplir de son espérance. Pas là pour nier la douleur, pas pour la minimiser, mais pour nous rappeler que au milieu de la douleur, au milieu des difficultés, il est présent comme un calme, une espérance. Et c'est là que notre foi devient concrète. Croire, c'est pas ignorer les difficultés, mais c'est continuer à marcher ensemble, marcher avec les autres, en sachant qu'un Dieu fidèle est à nos côtés, avec nous, derrière nous, comme le dit d'autres psaumes, ou devant nous. Et c'est faire ce pas de confiance. Je crois qu'en tant qu'Église, je l'ai exprimé déjà tout à l'heure, hein, on le vit ces derniers temps, ces derniers mois. Dieu nous a accordé dans sa grâce des signes de pouvoir marcher ensemble, dans des relations plus profondes, encourageantes, dans des soutiens mutuels. Et dans le même temps, on le sait, plusieurs d'entre nous traversent des situations compliquées, la maladie, les difficultés avec un proche, je le disais tout à l'heure, la solitude ou la fatigue. Mais Dieu est là, il agit et veut nous remplir de joie et de paix. Et pour que notre communauté, notre Église devienne un lieu où cette présence bienfaisante se vit, se goûte, s'expérimente. C'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est profondément spirituel. C'est une Église remplie de joie, de paix. Et je crois que c'est déjà un témoignage pour chacun d'entre nous dans ce monde qui est en crise. C'est être ce sel et lumière dont parle Jésus. Notre texte de Romains, ce petit verset va beaucoup plus loin. C'est le troisième mouvement, hein. Paul ne parle pas simplement d'être rempli, mais de déborder. Autrement dit, quand Dieu remplit nos cœurs, c'est pas pour qu'on le garde pour soi. C'est pour que ça se déverse. Ce que Dieu met en nous, il souhaite le voir rayonner autour de nous. Ce que Dieu met en toi, ce que Dieu te donne, il désire te faire rayonner autour de toi. Pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je trouve, ici, tout change de dimension. Paul ne prie pas juste pour une bénédiction qui serait personnelle, mais pour un rayonnement collectif. La joie et la paix ne sont pas des richesses à garder. Elles ont vocation à déborder et c'est le Saint-Esprit qui les répand. Je trouve que l'image, elle est belle d'une coupe qui déborde, d'une source d'eau vive qui déborde, qui sort du ruisseau. Dieu ne veut pas que nos vies soient une citerne bien étanche, bien fermée, où on garde un trésor à moitié plein ou à moitié vide et qu'on ne voit pas, mais non, qui est appelé à déborder. Et c'est l'espérance qui est appelée à déborder. Autrement dit, quand Dieu agit dans nos vies, il souhaite le voir devenir contagieux, de se propager. Et je trouve, j'aime beaucoup la précision de Paul, par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, cette espérance qui doit déborder de vous, c'est pas votre enthousiasme, ni notre tempérament optimiste, ni même votre engagement fidèle qui crée cette espérance. C'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre de Dieu. Alors oui, on a des tempéraments plus... Mais l'espérance dont parle Paul ici, c'est l'espérance produite par le Saint-Esprit et qui déborde et qui est spirituelle, comme un fruit spirituel. Par Parfois, on peut se dire, moi, je suis pas comme lui ou comme elle face aux circonstances. Moi, je me décourage plus vite. Je manque d'espérance. Mais rappelons-nous ceci, et c'est ce que dit ce texte, l'espérance n'est pas une qualité que l'on possède. C'est un don que Dieu veut faire grandir, veut remplir. La Bible parle du don de la foi, oui, on est d'accord. Et de la même manière, c'est le Saint-Esprit qui veut déposer ces choses-là dans l'espérance et la faire croître en nous, la faire déborder. Et c'est vrai, certains manifesteront davantage d'espérance, de foi, de confiance, parce qu'ils ont appris un certain nombre de choses au fil des épreuves, à se reposer sur Dieu, mais elle est offerte à tous. Dieu distribue son espérance, non pas en cause de nos performances, mais selon sa grâce. Alors mes amis, ne nous décourageons pas si on se sent faible dans l'espérance, si on se dit « moi je vois rien devant moi ». Mais demandons au Seigneur, source de cette espérance, de raviver par son esprit dans nos vies cette foi et cette joie de le vivre. Paul le dira clairement un peu plus tôt dans la lettre, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le même mot, répandu. Il y a l'amour qui est répandu, il y a l'espérance qui... C'est le même esprit qui répand ces choses-là dans nos vies. Et nous sommes appelés à en être témoins. Parfois, ce n'est pas des grands discours qui vont impacter les autres, permet notre façon de vivre dans la foi, dans la confiance. Une vie habitée, mes amis, par le Saint-Esprit, n'a pas besoin de chercher à impressionner. On n'est pas là dans l'impression, dans des actes puissants, mais elle attire parce que la vie, elle est remplie de paix et de confiance. Le témoignage de mon frère que je partageais tout à l'heure qui traverse une chiméo, il est puissant parce qu'en fait, il a touché énormément de personnes parce que c'était dramatique, il est jeune. Et la manière dont il exprimait sa confiance, ça a débordé, ça a été un témoignage. Non pas parce que c'était des actes puissants, mais parce que Dieu était fidèle. Souvenez-vous des disciples après la Pentecôte. Ils n'étaient plus dans la peur, ils ont débordé de joie et d'espérance. Ce qui était vrai pour les premiers disciples l'est encore pour nous. Le Saint-Esprit est une puissance qui nous rend capables de marcher avec les autres, qui nous rend capables de marcher avec espérance, d'aimer comme Dieu a aimé, qui nous donne de faire du bien comme Christ nous a fait du bien, qui nous donne d'encourager, d'espérer, parce que nous savons où est la source. C'est pourquoi le plus grand besoin pour nous cette année, c'est pas d'être volontariste, mais c'est de puiser à la bonne source. Et quand Paul prie pour que les croyants débordent d'espérance, il pense à cette espérance qui prend source dans son Dieu. Et cette espérance-là, mes amis, change notre manière de parler, de servir, d'écouter, d'aimer. Elle nous fait regarder les autres, non pas comment on les voit les gens aujourd'hui autour de nous, mais selon l'espérance du Seigneur. Ce que Dieu veut faire d'eux autour de nous. On est entouré de non-chrétiens. Est-ce qu'on se dit c'est des non-chrétiens ou est-ce qu'on se dit c'est des pas encore chrétiens? Certains m'ont déjà entendu dire les pecs. Ça a l'air négatif, mais les pas encore chrétiens. C'est dans le sens avoir cette espérance de que les gens autour de nous peuvent goûter à ce Dieu qui veut les réconcilier. Se dire que notre Église déborde d'espérance, c'est une Église qui se tourne pas juste sur elle-même, mais qui déborde à l'extérieur. Pour les membres de l'Église, je vous rappelle, on s'était mis un petit défi, qui était déjà assez conséquent, en début 2025, dans notre budget. On avait fait le choix, avec les anciens, de vous encourager à valoriser de façon comptable, notre soutien à l'extérieur, de bénir l'extérieur. Et on a fait le point il y a quelques jours avec Timothée, notre comptable, et on a pu honorer notre ambition, mais notre désir de rayonner, de déborder, de pas garder pour nous notre trésor, mais de le déborder. Et Dieu, dans sa grâce, nous l'a permis. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons une église où la paix et la joie débordent dans les relations, par nos paroles d'encouragement, par nos paroles d'écoute, dans un acte de service concret, par une prière pour celui qui souffre. Notre monde a besoin de voir des gens, des femmes et des hommes remplis d'espérance. Pas une église parfaite, mais une église qui est habitée par cette paix, cette joie et cette puissance du Saint-Esprit. Le monde, les infos, peuvent parler de fatalité. Mais en ce début d'année, on est appelé en tant que chrétien à parler d'espérance. Le monde collectionne les peut-être, mais on a des certitudes, on l'a dit en chanson, on chante que notre avenir est en sécurité. Le oui. Plusieurs fois, je me suis dit l'année passée, je ne sais pas comment les choses vont tourner, comment les choses vont avancer, mais je sais entre quelles mains je suis. Je sais entre quelles mains je suis. Je ne sais pas le chemin devant moi, mais je sais entre les mains de qui je suis. Je fais une petite pub là pour les hommes. Le 7 février, samedi 7 février, à une soirée entre hommes. Et on aura le témoignage d'un homme, Jean-Luc, un homme qui a marqué ma vie. Un homme qui a eu des hauts et des bas, qui a eu des sacrées galères dans sa vie, et il va partager son expérience de cette vie entre les mains de Dieu. Et c'est une soirée, le 7 février, vous aurez la pub hein, prochainement, où on est appelé à inviter des gens qui ne connaissent pas. Vous savez, les PEC. Alors qu'on puisse vraiment prier dans le mois qui nous reste devant nous à se dire qui le Seigneur me met sur le cœur où je suis appelé à parler d'espérance, à parler de paix. Je vous invite à prier pour cela et à inviter. Je ferme la parenthèse. Et pour cela, invitons. Laissons le Saint-Esprit répandre cette espérance en nous. Prenons chacun le temps dans les semaines à venir pour écouter, pour prier, pour servir, pour encourager, pour être des hommes et des femmes remplis d'espérance. Et j'aimerais nous encourager, comme un défi, à identifier autour de nous une personne qui manque d'espérance. À identifier peut-être un groupe de personnes, c'est peut-être un lieu de travail, où c'est toujours noir, où c'est toujours pesant. Cet espace où Dieu vous appelle à être cette personne qui déborde d'espérance, en acte et en parole. Alors comment répondre à cette prière, je la relis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Un verset si court, mais déjà une belle direction pour nous cette année. Elle commence avec Dieu, c'est notre source. Elle se poursuit en nous, on est rempli et elle déborde vers les autres par le Saint-Esprit. Et c'est le mouvement de l'Évangile, c'est le mouvement de la bonne nouvelle. Ce que Dieu donne, il veut le faire vivre en nous. Ce que Dieu donne, il veut le faire vivre en nous, mais pour le répandre au-delà. Et c'est mon vœu, ma prière, pour toi, pour nous, pour notre Église, au début de cette année. Je relis à ma phrase que j'avais mise. Entrons dans cette nouvelle année comme un peuple de l'espérance, enraciné en Dieu, rempli de joie et de paix, pour rayonner vers les autres. Et vous l'avez compris, cette espérance, c'est pas une émotion, c'est pas un slogan de l'année. Elle repose sur une réalité, Jésus-Christ, vivant, qui seul peut remplir un cœur vide, qui seul peut restaurer une paix brisée, qui seul peut rallumer une joie éteinte. C'est en lui et en lui seul que nous découvrons la vraie espérance, celle qui ne déçoit jamais. Peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont pas cette paix ou cette relation personnelle avec Dieu. Que vous puissiez entendre, elle est offerte. C'est le don de Dieu. Et pour nous qui croyons déjà, que cette parole puisse être une résolution un peu spirituelle de déposer notre peur, de refuser le désespoir et de choisir de marcher chaque jour qui est devant nous avec ce Dieu de l'espérance. Peut-être on pourrait prier aujourd'hui, Seigneur, fais-moi être porteur d'espérance dans ce monde, là où tu m'envoies.